au 97.3. On vous donne le juste. C-H-I-A.
On est avec Pierre Blain, directeur général de Les Usagers de la Santé du Québec. On est ici pour parler du bras de fer entre le gouvernement et les fédérations de médecins concernant la loi 2, qui, on se le rappelle, lie la rémunération des médecins à des indicateurs de performance collectif. Donc, je commence en vous posant votre propre question que vous êtes posée dans votre communiqué. Les médecins doivent-ils être redevables de leur performance pour une part de leur rémunération?
Pour moi, pour les usagers de la santé du Québec, oui, les médecins doivent être redevables d'une part de leur rémunération. Cela étant dit, cependant, personnellement, même si je suis d'accord avec le fait que on doit demander des comptes à un médecin, je ne pense pas que la loi 2 va améliorer l'accès à un médecin de famille.
Donc, pour vous, la loi 2, c'est pas une bonne chose?
C'est pas une bonne chose. Ce qui était une bonne chose, c'était de faire en sorte que on ramène les médecins à plus de raison, c'est-à-dire faire le boycottage de la formation des nouveaux médecins. Je pense que c'était pas une bonne chose à faire. Toutefois, je pense que le gouvernement, puis la CAQ, malheureusement, depuis son arrivée au pouvoir, a pris une dérive un petit peu autoritaire. Indiquer dans la loi sur la santé, dans cette nouvelle loi-là, des pastilles, puis des types de personnes que les médecins devraient voir, je pense que ça, ça relève pas du gouvernement. C'est pareil comme si vous alliez à l'épicerie, puis on vous disait, on va déterminer qui va passer d'abord devant aux caisses, puis peut-être que vous allez être obligé d'attendre une heure parce que on juge que votre panier est trop gros ou bien que votre panier est trop petit ou que vous n'avez pas les moyens pour faire ça. Donc, les espèces de pastilles de couleurs imbéciles qui sont mises dans la loi vont faire en sorte qu'on va braquer les médecins, comme on le voit là, et c'est ça qui est en train de faire. On dégénère justement avec la loi 2. Alors que c'est comme toute convention collective, dans le fond, c'est la rémunération. Et présentement, on est revenu encore à la case départ où tout le monde se chicane pour savoir combien il devait être payé ou pas.
Donc, pour vous, quels devraient être les critères de performance?
Les critères de performance, d'abord, c'est le nombre d'heures, effectivement, qu'un médecin doit faire. Présentement, au Québec, vous le savez, vous êtes frontalier avec l'Ontario, on sait très bien que c'est pas du tout les mêmes principes. Au Québec, un omnipraticien doit pratiquer au minimum 12 heures en hôpital, alors qu'en Ontario, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, je pense qu'il y aurait déjà une grande réforme à faire au niveau d'heures qu'on doit demander à un médecin de faire. S'il se consacrait principalement à sa tâche d'être un médecin de famille dans son cabinet, déjà, il y aurait une grande amélioration. Présentement, c'est parce qu'on n'était pas capable de couvrir les autres choses qu'on impose cela aux médecins, et c'est ça qui fait une grosse différence. C'est la même chose pour les médecins spécialistes. Les médecins spécialistes, j'ai eu des cas, on a eu un cas d'ailleurs dans les journaux où la chirurgienne disait « J'avais 4 plages horaires pour pouvoir faire de la chirurgie. Il m'en est resté une à la fin parce qu'on n'avait pas suffisamment d'infirmiers, d'infirmières et d'inhalos pour pouvoir faire les opérations. » Donc, je pense que c'est un mélange de choses qui doit être faites. Et comme je vous dis, différemment entre un obstiné et aussi un médecin spécialiste.
Est-ce que, selon vous, est-ce que les Québécois sont moins bien pris en charge par le système de santé que dans d'autres pays? Et si oui, pourquoi?
Pour moi, la question est très complexe. Une fois qu'on est dans le système, on est très bien traité. Ça, tout le monde le dit et tout le monde le reconnaît, moi le premier. La différence, c'est l'accès. Alors, l'accès à avoir un médecin de famille pour avoir un diagnostic, c'est beaucoup moins bon qu'ailleurs. Les listes d'attente sont plus longues. La même chose pour l'attente à l'urgence, c'est beaucoup inférieur à tout ce qu'on voit ailleurs. Et c'est la même chose pour voir un chirurgien Et c'est la même chose aussi pour les listes d'attente en chirurgie. En Europe, de façon générale, vous pouvez voir un médecin dans le lendemain ou le surlendemain. Bien sûr, il y a une petite nuance qu'il faut faire. C'est que les usagers paient une petite portion. Ils doivent payer quelque chose pour avoir accès. Nous, chez nous, c'est complètement gratuit. Est-ce que c'est ça qui cause un problème? Possiblement, mais moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est le nombre d'heures que les médecins devraient consacrer. J'ai fait une étude déjà d'Altan que j'avais présentée lors d'un mémoire à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, et j'étais même plus sévère sur le nombre d'heures qu'un médecin devait faire que même ce que le ministre proposait. Moi, je pense que facilement, un médecin peut prendre 1300 à 1500 patients et il peut les voir. Et même s'il ne travaille que 42 semaines par année, puis sur une base de 35 heures par semaine. Le problème, c'est qu'il y a trop de ces médecins qui ne travaillent qu'à temps partiel. On va nous dire, oui, mais ils ont d'autres tâches. Effectivement. Et normalement, j'ai vu que c'était une des propositions que le gouvernement avait fait aux fédérations de médecins, de voir avec eux quelles pouvaient être les autres tâches qui pourraient être considérées comme faisant partie du travail, mais qui pourraient aussi faire en sorte qu'on ait un meilleur accès.
Vous avez commencé à en parler. On va approfondir un petit peu, si vous voulez bien. De plus en plus, il y a des gens, on entend des termes comme privatisation partielle. Hein. Certains ajoutent le qualificatif partiel du système de santé. Pour vous, est-ce que c'est une avenue qui peut être explorée ou pas du tout?
Je ne penserais pas. Moi, je pense que plutôt, il y a quelque chose qui a déjà existé au Québec et qui est disparu, c'est-à-dire les CLSC. Je pense qu'on devrait prioriser encore plus les CLSC. Et là, si on parle de privatisation, ben les médecins sont à salaire plutôt qu'être à l'acte comme ils le sont actuellement. Je pense que c'est une solution qui pourrait avancer et qui pourrait être quelque chose d'important. Comme tel, je pense qu'il ne faut pas qu'on regarde vraiment au niveau de la privatisation, bien que, dans certains cas, le réseau de la santé fait déjà appel à l'entreprise privée pour régler certains de ses problèmes, entre autres les listes d'attente en chirurgie. Plusieurs ont recours à des cliniques privées. Mais pourquoi qu'une clinique privée est capable d'offrir ces services-là, alors que le public n'est pas capable de le faire? Moi, je vais vous donner tout simplement quelque chose. Moi, je pense que c'est parce que dans une clinique privée, on est considéré comme un client, alors que au réseau public, on est considéré comme un patient. Un patient, ça veut dire « attends, puis attends ton tour ». C'est ça, pour moi, la différence.
Dernière question. Est-ce que les démarches de centralisation du système de santé qu'on a observées par les deux derniers gouvernements, est-ce que pour vous, ça a apporté du positif ou plus de négatif au contraire?
Il y a un aspect qui est positif. L'aspect positif, c'est supposément avoir une meilleure coordination. Malheureusement, avec l'arrivée de la CAQ, cette coordination-là, on dirait qu'elle n'est plus au rendez-vous parce qu'on a oublié quelque chose d'extrêmement important et on l'a fait taire. On a fait taire la voix des usagers à l'intérieur du réseau de la santé. Les comités des usagers sont en train d'être mis en tutelle et c'était eux qui étaient la voix des usagers et c'était par eux que normalement on devait faire changer les choses. Actuellement, ce n'est plus le cas.
Donc, si j'ai bien compris, selon vous, les médecins doivent être redevables de la qualité des services aux citoyens, mais il faut le faire de la bonne façon et ce n'est pas nécessairement ce que le gouvernement est en train de faire. Et là-dedans, il faut faire attention à ne pas pousser les médecins à partir ailleurs, c'est ça?
Absolument. Et l'Outaouais était l'exemple parfait. Moi, quand je siégeais au conseil d'administration d'un hôpital, le nombre d'infirmières qu'on a perdu, même de médecins, faut faire très attention. Et le problème avec la loi, c'est qu'on commence à interférer avec les actions des médecins. Et ça, c'est très dangereux.
Eh bien, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée à vous. C'était Pierre Blain, directeur général de Les Usagers de la Santé du Québec.
Au 97.3, on vous donne le juste. C-H-I-A.
C'est là-dessus que l'heure juste se termine aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce midi encore. Vous avez entendu notre journaliste Alexis Goyer qui s'entretenait avec Pierre Blain, directeur général de l'organisme Les Usagers de la Santé du Québec, à propos de la loi 2 sur la rémunération des médecins. En première partie d'émission, Alexis a aussi discuté avec le président du syndicat du personnel enseignant des Hautes-Rivières, Daniel Boisjoli. C'était à propos du code d'éthique imposé par le gouvernement au milieu scolaire et qu'il juge trop contraignant. Merci à eux d'avoir pris la peine de répondre à nos questions aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission en rattrapage sur notre site internet dans la section balado. C'était Simon Dominé, directeur de l'information au micro. En mon nom et celui de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute du 97.3. À la semaine prochaine. We'll be right back.